Comment un simple missile tiré au-dessus du détroit d'Ormuz finit-il par dicter, mais de manière presque mécanique, le coût d'un crédit immobilier à des milliers de kilomètres de là?
Ouais, c'est la grande question.
C'est vraiment la question vertigineuse qui nous réunit aujourd'hui, parce que d'habitude, la perception qu'on a d'une guerre, elle est simple, hein. Un camp gagne, l'autre perd, on signe un accord et l'histoire s'arrête.
Ah bah, dans les manuels d'histoire, oui, et souvent. Mais là, la réalité est, enfin, elle est infiniment plus complexe.
C'est clair. Et aujourd'hui, on plonge au cœur d'un document exceptionnel qui prouve une chose assez terrifiante, en fait. Gagner une guerre sur le champ de bataille, bah, ça ne sert strictement à rien si l'on perd le contrôle de l'économie mondiale.
C'est un changement de paradigme total, pour le coup. La supériorité militaire classique, aujourd'hui, elle ne garantit absolument plus la stabilité politique ou même économique.
Bon, décortiquons tout ça. Cette exploration approfondie, elle s'appuie sur une note stratégique majeure, daté d'avril 2026. Ça s'intitule « La guerre des limites » et c'est rédigé par le chercheur Adnan Benchakroun.
Un travail vraiment monumental, d'ailleurs.
Absolument. Ce document, en fait, il synthétise les analyses des centres de recherche mondiaux les plus réputés. On parle du CS6, de la Fondation Carnegie ou encore la Brookings Institution. Et tout ça concerne ce conflit régional massif impliquant les États-Unis, l'Iran et Israël.
Voilà, et le but, c'est vraiment de regarder au-delà des explosions, si je puis dire.
Visible de cet affrontement. Parce que pendant que les chaînes d'infos tournent en boucle sur les déclarations fracassantes, genre Donald Trump qui promet de frapper l'Iran de manière dévastatrice dans les 2 ou 3 semaines, bah, la véritable guerre, elle se joue ailleurs.
Ouais, exactement.
Elle se joue dans le silence des marchés financiers, dans les calculs des assureurs maritimes et bien sûr dans l'ombre des grandes alliances.
En fait, ce conflit, il agit littéralement comme un laboratoire brutal du désordre contemporain. Et ce qui frappe immédiatement quand on lit ces rapports, c'est la division au sein même du camp occidental.
Les failles se creusent.
C'est ça. On réalise que l'illusion d'une solution magique par la force, elle s'est complètement évaporée. Prenez Emmanuel Macron, par exemple.
Oui. Qu'est-ce qu'il disait exactement, R ?
Eh bien, il a publiquement jugé irréaliste l'idée de forcer la réouverture du détroit d'Ormuz par la seule puissance militaire. Il y a une vraie prise de conscience ici. Envoyer des porte-avions, ça ne suffit plus à rouvrir une route commerciale si les navires civils refusent tout simplement d'y passer.
Bah, ça, c'est une excellente transition pour aborder l'un des concepts les plus contre-intuitifs de cette crise. Ce que le document appelle l'illusion du temps et le piège de la victoire.
Ah oui, la question des temporalités, c'est fondamental.
Parce qu'actuellement, du côté de Washington, on laisse entendre que la ligne d'arrivée militaire est super proche. On détruit les cibles, on élimine les menaces immédiates, et voilà. Mais en lisant les analyses stratégiques, on comprend que cette guerre est très très loin d'être terminée. Pourquoi un tel décalage en fait ?
Eh bien, pour comprendre cette distorsion, il faut séparer 3 temporalités. Elles coexistent, mais elles n'avancent jamais à la même vitesse. D'abord, on a le temps militaire.
Ok, le temps militaire.
C'est un temps fulgurant. C'est rythmé par la vitesse d'un chasseur-bombardier ou d'un drone. On repère une cible, on la détruit, c'est immédiat. Boum, c'est plié.
Donc ça, c'est le court terme absolu.
Là, c'est une temporalité beaucoup plus lente et surtout plus pernicieuse. C'est le temps du maintien d'une instabilité latente. Le temps où on cherche l'épuisement de l'adversaire.
Je vois.
Et enfin, le troisième, c'est le temps politique. Et celui-là, il est infiniment long, car c'est celui de la redéfinition d'une paix durable et de la reconstruction des sociétés.
Donc en gros, on peut avoir fini la guerre dans le temps militaire, mais être encore en plein chaos dans les 2 autres temporalités.
C'est ça. Ce qui est fascinant ici, c'est précisément l'absence totale d'architecture diplomatique pour gérer l'après-frappe. Les experts anticipent très rarement une victoire nette avec une belle capitulation signée sur un bout de papier dans ce genre de configuration asymétrique.
Ouais, le fameux traité de paix, ça n'existe plus vraiment sous cette forme.
Non, voilà. La modélisation la plus probable selon les think tanks, ça pointe vers ce qu'ils appellent un gel instable.
Un gel instable ?
Oui. Pourquoi ? Parce que même sévèrement affaibli, avec des infrastructures en ruine, un acteur comme l'Iran conserve une capacité résiduelle de nuisance. Il en faut très peu, en fait.
Genre quoi ?
Quelques mines marines lâchées dans l'eau ou quelques drones bon marché qui traînent. ça suffit largement pour empêcher un retour à la normale.
Pour imager la chose, c'est un peu comme si on venait de gagner une partie d'échecs magistral. On a éliminé méthodiquement toutes les pièces de l'adversaire. On se lève, on déclare échec et mat.
Ouais.
Mais on est tellement concentré sur sa victoire qu'on ne réalise pas que le plateau de jeu lui-même est en train de prendre feu, en fait.
C'est une excellente image.
Et ce feu va se propager à toute la pièce. Donc, concrètement, comment cette instabilité résiduelle, ce fameux feu, se manifeste-t-elle au-delà des zones de bombardement ?
Eh bien, ce feu, c'est la paralysie absolue des artères de l'économie mondiale. L'incapacité à sécuriser le détroit d'Ormuz, ça déclenche une réaction en chaîne dévastatrice.
Parce qu'Ormuz, c'est pas juste un petit passage anodin.
Ah non, pas du tout. Il faut bien comprendre qu'Ormuz n'est pas juste un trait bleu sur une carte maritime. C'est l'un des goulets d'étranglement les plus critiques de la planète. Quand ce détroit est bloqué, ou même juste menacé, c'est tout le système nerveux du commerce mondial qui entre en convulsion.
C'est vrai que les chiffres du rapport donnent le vertige. Les marchés enregistrent des bons spectaculaires. On parle de plus 11% pour le WTI, donc le pétrole de référence américain, et plus 7% pour le Brent européen. Et ça, en une seule séance.
Oui, l'impact est immédiat.
Mais là où l'analyse devient vraiment glaçante, je trouve, c'est qu'on dépasse très vite la seule question du pétrole pour aller faire le plein de sa voiture. Les coûts du fret maritime explosent. Et, fait encore plus méconnu, et ça m'a surpris, c'est toute la chaîne des fertilisants azotés qui est menacée.
Ah ça, c'est un point absolument crucial et souvent ignoré.
Des engrais, sérieusement?
Oui, des engrais. L'agriculture moderne repose massivement sur ces fertilisants azotés. Et comment on les fabrique ? À partir de gaz naturel. Or, une immense part de ce gaz transite par le Moyen-Orient.
Donc, si je suis la logique, le détroit est bloqué, le gaz ne sort plus.
Exactement. Si le gaz ne sort plus, les usines d'engrais, elles s'arrêtent. Et si les engrais manquent, qu'est-ce qui se passe ? Les rendements agricoles mondiaux s'effondrent.
Waouh ! Donc, ce qui commence comme un conflit énergétique régional se métamorphose, en quelques mois seulement, en une crise de la sécurité alimentaire mondiale.
Tout à fait. Les prix explosent dans les supermarchés, bien, bien au-delà de la zone de guerre.
Et cela nous ramène à ma question d'introduction. Comment explique-t-on que les taux hypothécaires fixes à 30 ans aux États-Unis aient grimpé à 6,46% en grande partie à cause de ce qui se passe à Ormuz? Il faut vraiment tracer cette ligne de domino pour notre audience.
Bien sûr.
Comment un blocage maritime finit par renchérir le coût d'une maison à Chicago ou même à Paris?
La mécanique est aussi implacable qu'invisible, vraiment. Le premier domino, comme le pointent les sources, c'est l'assurance maritime.
Les assureurs s'affolent.
C'est ça. Face au risque de missiles, les assureurs, notamment à Londres, ils paniquent. Ils exigent des primes exorbitantes pour couvrir les navires de commerce. Résultat, le transport devient hors de prix.
Logique.
Ce surcoût du transport, et de l'énergie bien sûr, il se répercute instantanément sur le prix de absolument tous les biens de consommation. Et voilà le deuxième domino. L'inflation globale repart à la hausse.
Et on sait ce qui se passe quand l'inflation monte. Les banques centrales paniquent à leur tour.
Exactement. Le troisième domino tombe. Pour casser cette inflation, les banques centrales sont forcées de maintenir des taux d'intérêt directeurs très, très élevés.
Ce qui nous amène au dernier domino.
Voilà, le citoyen lambda qui va voir son banquier pour acheter une maison et qui découvre des taux de crédit à plus de 6%. La guerre moderne, en fait, elle instaure une véritable taxe mondiale invisible.
Une taxe fondée sur la peur?
Oui, fondée sur le risque. Et cette mémoire du risque, elle restera gravée dans les modèles économiques, dans les contrats d'assurance, bien après la chute du dernier missile.
Donc, si l'on résume la situation, l'Occident s'épuise financièrement à cause de cette inflation importée et les États-Unis consument leurs ressources militaires et toute leur attention au Moyen-Orient. Mais cet argent et ce pouvoir ne disparaissent pas dans le vide.
Ah non, la géopolitique a horreur du vide.
Exactement. S'il y a un perdant, il y a des gagnants. La Russie de Vladimir Poutine, par exemple, elle semble tirer un profit inespéré de ce chaos, non?
C'est tout à fait ça. Si l'on relie cela à la situation globale, Moscou est le grand bénéficiaire indirect. D'un côté, la flambée des prix de l'énergie permet à la Russie d'engranger des revenus faramineux, et ça l'aide à financer ses propres efforts de guerre sur d'autres fronts.
L'argent coule à flot.
Oui. Et de l'autre côté, le Kremlin observe avec une satisfaction évidente l'épuisement des stocks occidentaux.
Les fameux missiles d'interception.
C'est ça. Les intercepteurs de défense aérienne, ce sont des missiles ultra sophistiqués, très lents et très chers à produire. Et là, ils sont massivement consommés pour intercepter de simples drones à bas coût au-dessus du Moyen-Orient.
C'est un déséquilibre financier délirant.
Pour Poutine, le calcul est cynique, mais rudement efficace. Il ne s'agit pas du tout de sauver l'Iran, hein. Il s'agit d'entretenir ce que les analystes appellent un chaos utile.
D'ailleurs, le rapport mentionne un détail fascinant là-dessus.
Lequel ?
Le seul moment où Moscou a exigé une accalmie, c'était un cessez-le-feu très ponctuel et uniquement pour permettre l'évacuation de son propre personnel technique de la centrale nucléaire de Bouchehr.
C'est fascinant, oui. Ça montre bien que, le reste du temps, le désordre sert purement ses intérêts.
Et puis il y a la Chine.
Ah, la Chine, c'est un autre niveau d'analyse.
Le grand rival de Washington, qui observe cette situation en calculant la bande passante stratégique américaine. En clair, le temps de cerveau disponible, les finances, les navires que les États-Unis peuvent consacrer à une autre crise. Mais là, attendez, je vous arrête tout de suite.
Je vous écoute.
Parce qu'il y a un élément qui semble illogique. Si Washington est complètement englué au Moyen-Orient, que ses stocks de missiles fondent à vue d'œil et que son économie souffre, c'est un boulevard absolu pour Pékin. Pourquoi la Chine n'en profite-t-elle pas pour lancer l'invasion de Taïwan demain matin ? L'occasion semble historique.
C'est l'objection la plus intuitive, c'est vrai. Mais l'analyse fine de la doctrine chinoise dans ce document démontre le contraire.
Ah bon ?
Oui, parce qu'une invasion militaire amphibie de Taïwan reste, même avec une Amérique distraite, une opération extraordinairement complexe. C'est meurtrier et surtout ce serait ruineux sur le plan économique pour la Chine elle-même, qui dépend énormément du commerce mondial.
Donc pas de débarquement immédiat ?
Non, Pékin ne veut pas détruire Taïwan, Pékin veut l'assimiler. Donc plutôt que d'envoyer des troupes, la Chine utilise cette crise mondiale pour intensifier ce qu'on appelle la tactique de la zone grise.
Des actions agressives, mais qui restent délibérément sous le seuil d'une déclaration de guerre formelle.
Parfaitement résumé. Des navires des gardes-côtes qui harcèlent les pêcheurs taïwanais, des incursions d'avions de chasse dans la zone d'identification aérienne, ou encore des navires dragueurs de sable qui détruisent les fonds marins autour de l'île.
C'est de l'usure pure et simple.
L'objectif est psychologique. Il s'agit d'épuiser Taïwan et de distiller un message empoisonné dans l'esprit de sa population. Le message, c'est « Regardez l'Amérique. Elle n'arrive même pas à pacifier le Moyen-Orient ou à rouvrir le détroit d'Ormuz. Pensez-vous vraiment qu'elle viendra vous sauver, vous, à des milliers de kilomètres ?»
C'est pervers. Il s'agit de saper la confiance envers le parapluie sécuritaire américain.
C'est exactement ça.
Et c'est un message qui résonne.
Parce que Taïwan prend la menace avec une gravité absolue. Les sources indiquent que les autorités locales viennent de valider en urgence un budget de défense spéciale de 40 milliards de dollars.
Et il ne s'arrête pas là.
Non, mieux encore. L'île cherche frénétiquement à diversifier ses approvisionnements en gaz naturel liquéfié pour ne plus dépendre du Qatar. Parce que si le détroit d'Ormuz est bloqué, Taïwan n'a plus d'énergie pour faire tourner ses usines de semi-conducteurs.
La fragilité des routes maritimes lointaines devient un enjeu de sécurité nationale vital pour eux. Ce qui nous amène à une dynamique assez vertigineuse. Si les rivaux de l'Amérique tirent parti de cette vulnérabilité, comment réagissent les propres alliés de Washington face à ce parapluie sécuritaire soudain percé ?
Eh bien, prenons le cas des monarchies du Golfe. Pour elles, le réveil est brutal.
Brutal, c'est le mot. Elles découvrent que des décennies de diplomatie du chéquier et le fait d'héberger les plus grandes bases militaires américaines sur leur sol, ça ne suffit plus à garantir leur survie.
C'est ce que le document appelle le paradoxe de la vulnérabilité. Et le talon d'Achille le plus terrifiant pour ces pays, curieusement, ce ne sont pas les puits de pétrole.
Non, c'est l'eau.
C'est l'eau. C'est la vulnérabilité ultime. Les infrastructures de dessalement d'eau de mer, que ce soit au Koweït, aux Émirats arabes unis ou à Bahreïn, sont devenues des cibles stratégiques primordiales.
Il faut bien se représenter la chose pour notre audience. C'est exactement comme installer le système d'alarme le plus cher et le plus sophistiqué du monde. Genre les flottes américaines, les boucliers antimissiles, pour se rendre compte au final qu'on habite dans une maison dont les murs sont en verre.
C'est une métaphore parfaite. Vous pouvez posséder toutes les richesses de la Terre, votre survie dépend entièrement de quelques gigantesques usines de dessalement. Elles sont ultra concentrées le long de la côte et elles pompent et bouillent l'eau de mer 24 heures sur 24.
Et donc si une salve de drone, qui coûte à peine quelques milliers de dollars, parvient à contourner le système d'alarme et détruit ses usines.
Des villes entières se retrouvent sans une seule goutte d'eau potable en l'espace de 72 heures.
C'est effrayant.
Cela soulève une question cruciale sur la redéfinition même de la sécurité au XXIe siècle. Les stratèges réalisent que l'accumulation de chasseurs de dernière génération ou de chars d'assaut, ça ne sert à rien si l'on ne peut pas garantir les flux vitaux.
La fameuse résilience logistique.
Exactement. La véritable puissance aujourd'hui, c'est la capacité à protéger ses câbles sous-marins, à sécuriser son approvisionnement en eau potable, à maintenir son réseau électrique face aux cyberattaques.
En prenant conscience de cette fragilité structurelle, les États du Golfe comprennent que Washington ne peut pas tout régler.
Donc ils cherchent leur propre autonomie.
Voilà, ils cherchent désormais activement à construire leur propre autonomie stratégique.
Et cette perte de foi envers l'hyperpuissance américaine, elle fracture même des alliances historiques, comme l'OTAN.
Le document montre que la CRIV dévoile de profondes lignes de faille.
Ah oui, l'OTAN est mise à rude épreuve.
Des pays européens comme la France, l'Espagne et l'Italie refusent catégoriquement de s'aligner aveuglément sur Washington pour mener une mission militaire coercitive dans le détroit d'Ormuz. Ils refusent l'escalade militaire.
Et en retour, cela provoque l'ire de Donald Trump. Il va jusqu'à menacer l'existence même de l'Alliance Atlantique face à ce qu'il perçoit comme une trahison de ses alliés.
Le conflit déborde vraiment largement de son théâtre géographique.
Il agit comme un révélateur. Il montre les faiblesses internes des alliances occidentales qui sont incapables de s'entendre sur la marche à suivre lorsque leurs intérêts économiques vitaux sont menacés de manière asymétrique.
Alors faisons une pause un instant.
Allez-y.
En ravivant l'inflation, on a vu qu'il offre un boulevard stratégique à la Russie à la chaune. Il divise l'OTAN et il terrorise les alliés du Golfe qui craignent de mourir de soif.
Le bilan est lourd.
Très lourd. Donc au vu de ce bilan catastrophique pour absolument toutes les parties prenantes, une question très rationnelle s'impose. Pourquoi s'obstiner? Pourquoi ne pas tout arrêter immédiatement? Et c'est là que l'analyse explore un aspect fondamental de la crise.
La vision israélienne du conflit.
Oui, et l'immense aveuglement des grilles de lecture occidentales à ce sujet.
Pour comprendre l'obstination, il faut complètement changer de logiciel mental. Pour Israël, la menace iranienne n'est pas perçue comme un problème de politique étrangère classique. Pas du tout.
Comment l'aperçoivent-ils alors?
De manière purement existentielle. Dans leur perception, c'est la survie physique et historique de l'État qui est en jeu. Et lorsque la menace est qualifiée d'existentielle, les règles habituelles de proportionnalité, elles sautent.
C'est ce qui justifie un élargissement des buts de guerre.
Exactement. Cela justifie, de leur point de vue, la volonté de redessiner complètement l'architecture de sécurité du Moyen-Orient. Le rapport cite d'ailleurs le ministre Bezalel Smotrich, qui évoque ouvertement l'ambition d'annexer le sud du Liban jusqu'au fleuve Litani.
Pour créer une zone tampon inenfranchissable.
Voilà.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que les experts de notre document pointent du doigt un grand paradoxe que les think tanks occidentaux n'arrivent pas du tout à intégrer dans leur modèle.
C'est le fameux angle mort.
Oui, oui. Nos analystes sont brillants pour compter le nombre de missiles restant dans un arsenal ou pour calculer au centime près la perte de PIB causée par un blocus. Mais ils sont dramatiquement incapables de mesurer une donnée immatérielle cruciale, l'endurance sociétale d'un adversaire.
C'est l'angle mort absolu de l'approche purement technocratique. L'expertise occidentale est bâtie sur le mythe de l'acteur rationnel, le fameux Homo economicus.
Si ça coûte trop cher, on arrête.
L'idée est simple. Oui. Si on impose à un adversaire un coût économique ou militaire bien supérieur au gain escompté, cet adversaire finira par céder. C'est mathématique.
Sauf que,
quand l'acteur en face ne raisonne plus en termes de profit, mais en termes de survie existentielle, cette rationalité classique s'effondre totalement.
C'est ce qui explique pourquoi décapiter la direction d'un régime fragile, par exemple en assassinant ses dirigeants clés, ne provoque pas forcément l'effondrement du régime en question.
Bien au contraire même.
On pourrait croire que la structure va s'écrouler, mais l'effet est souvent inverse. Le document montre qu'une telle frappe offre au régime l'ultime argument, l'opportunité rêvée, pour justifier une répression interne impitoyable.
Le pouvoir se radicalise.
Et il soude ses partisans autour d'un récit super simple. La patrie est en danger de mort, toute dissidence est une trahison. En fait, l'assassinat nourrit la survie du régime.
Nos grilles d'analyse sous-estiment gravement la résilience et la plasticité des régimes sous le choc. Les observateurs oublient souvent qu'au Moyen-Orient, certains acteurs, qu'ils soient étatiques ou non étatiques, ont une acceptation du chaos bien, bien supérieure à la nôtre.
C'est un point majeur.
Oui. Entre un ordre régional qui les marginalise ou les menace directement et une désorganisation totale de la région, ils choisiront le chaos sans aucune hésitation. La souffrance économique de leur population devient une préoccupation secondaire face à l'impératif sacré de la survie de la structure.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Après avoir exploré les abysses de la finance mondiale, les calculs cyniques des grandes puissances, l'angoisse des États du Golfe et l'impossibilité de penser la rationalité d'autrui, que doit-on retenir de cette vaste radiographie stratégique ?
S'il ne fallait retenir qu'une seule leçon de tout ça, c'est celle de l'illusion de la puissance cinétique.
C'est-à-dire ?
Cette guerre démontre sans l'ombre d'un doute qu'avoir la supériorité technologique et militaire permet de détruire de manière chirurgicale. Oui, mais ça ne permet plus de maîtriser les ondes de choc mondiales. Savoir détruire un pont n'a jamais signifié savoir gouverner les décombres ni empêcher l'inflation mondiale.
Et c'est précisément sur les décombres que cette exploration se termine, avec une réflexion profondément troublante, glissée dans le post-scriptum de la note de recherche.
Ah oui, le fameux scénario noir.
C'est ce que l'auteur appelle le scénario noir, oui. Parce que jusqu'ici, dans toute notre discussion, on a présupposé une forme de destruction réversible.
Un marché boursier panique, puis finit par se calmer.
Une ligne de fret est déroutée, puis retrouve son chemin. Même une raffinerie bombardée. Bon, ça finit par être construit en quelques années. La résilience humaine fait son œuvre. Mais que se passe-t-il si la violence franchit un seuil inédit ? Que se passe-t-il si la guerre bascule dans l'irréversibilité ?
C'est une perspective effrayante. Parce que là, elle ne relève plus de la géopolitique, mais presque de la destruction des fondements même de la vie.
Comment ça pourrait se manifester ?
Il faut imaginer un instant que les principaux champs pétroliers de la région soient sabotés de manière à être inutilisables pendant des décennies. Que le détroit d'Ormuz soit saturé de mines sous-marines indétectables, ce qui rendrait la navigation impossible pour toute une génération.
Et on parlait de l'eau tout à l'heure.
Ou pire encore, oui, que les fameuses usines de dessalement d'eau de mer soient rasées sans possibilité de reconstruction rapide, vous laissez des millions de personnes dans un environnement désertique sans eau potable.
C'est à ce moment précis que la nature même de la guerre change. À partir de quel degré de violence une guerre ne se contente-t-elle plus de vaincre une armée ou de renverser un régime, mais commence-t-elle à anéantir purement et simplement les conditions physiques de l'existence sur l'ensemble d'une région ?
C'est le point de non-retour.
C'est le retour cruel à notre analogie du début. Et si le feu ne se contentait pas de consumer les pièces sur l'échiquier, mais brûler la table, les murs et la maison tout entière, rendant toute partie future physiquement impossible ?
Ça laisse sans voix.
C'est une question glaçante qui redéfinit totalement la notion de puissance dans un monde hyper connecté où la fragilité de nos infrastructures est finalement le prix de notre confort. C'est une réflexion que nous laissons à notre audience le soin de méditer. C'était une plongée analytique fascinante et nécessaire. Merci à ceux qui nous écoutent d'avoir suivi avec nous les fils invisibles de cette guerre des limites. À la prochaine pour décortiquer ensemble un nouveau pan de notre monde complexe.